Bonsoir et bienvenue dans l'univers des bandes dessinées états-uniennes. Suivez-moi ce soir et insérons-nous dans les trésors de Phylactère. Invitons-nous parmi les héros culottés et les créatures oniriques. Bienvenue au Comics Zone.
Bonsoir et bienvenue dans cette 27e épisode de Comics Outcast. Nous sommes le lundi 7 septembre. C'est la dernière émission de la saison, techniquement, avant la grande rentrée de Radio Kawa le 21. Avec moi ce soir pour cette émission, il y a Lane.
Bonsoir Eric.
Il y a Zef.
Salut.
Et Ben.
Bonsoir.
Alors, est-ce que vous avez des petits trucs en ce moment, Zef, qu'est-ce que tu fais?
En ce moment, je me suis remis à cause d'un pote à Diablo 3. Donc, j'ai re-téléchargé le jeu parce qu'il m'en a parlé et ça me donnait envie de jouer. Et je passe beaucoup de temps aussi à jouer à Heroes of the Storm.
Ah ouais, donc full bizarre.
Full bizarre.
Ben, qu'est-ce que tu fais en ce moment?
Bon, c'est que le meilleur jeu bizarre, c'est Hearthstone, donc moi Hearthstone. Et je suis en train de tout me retaper Mike Mignola.
Ouais.
Le mec qui fait Hellboy, parce que j'ai envie de vous faire un petit dossier bientôt. Donc, et puis parce que je kiffe aussi, donc voilà.
Parfait. Et toi, Lane, qu'est-ce que t'as en ce moment?
Moi je croule sous les lectures et puis je prépare l'étrange festival. En fait, j'ai fait mon petit planning des petits films qui m'intéressent pour la semaine.
Putain, bien sûr.
J'ai compris les tranches festival, genre de la bouffe, des tranches, de quoi. J'ai un peu faim sans ça.
Non, et les tranches festival du coup qui commencent, et du coup il y a pas mal de films dont Glenn or Glenda ou Moonwalkers. Ou...
C'est toujours à chaque année je veux y aller, chaque année je
m'y sers. Il faut prendre des places et y aller, parce qu'il y a encore des places, donc prenez des places, les enfants.
Dépêchez-vous,
c'est à Châtelet au Forum des Images.
Ouais. Okay.
Faites vite. On n'enregistre pas, comme vous pouvez l'entendre, chez WeFM, mais on est chez le bon pote Adrien, qui nous...
C'est un bon pote.
Oui.
Oui, c'est un bon pote. Qui nous héberge pour cette session. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de nous contacter via Twitter pour nous faire vos recommandations sur les comics ou nous donner simplement vos avis. Pareil sur la page Facebook. ou alors sur le site de Radio Kawa. Alors, le programme de ce soir, il est sympa comme chaque deux semaines. On va vous parler de Providence, de Rumble et de Age of Reptiles, Ancient Egyptians. Oui, le titre est très... étrange, mais on va en parler tout à l'heure. En focus, on va parler de Why the Last Man, et enfin, dans les buts, on va vous parler de l'animation Avengers Assemble. Tout ça, c'est pour tout à l'heure. On commence tout de suite. Comics Outcast numéro 27, c'est parti! Et on commence cette émission avec Zef qui va nous parler de Providence, le dernier titre d'Alan Moore en date.
Yep, et voilà, donc du coup t'as tout dit parce que c'est Alan Moore, donc c'est forcément bien. Lisez-le, merci.
Passons à la suite, deuxième.
C'était presque bien. Donc ouais, non, en fait j'avais commencé par le dessinateur parce que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu moins connu, donc c'est Jason Burroughs. C'est un gars en fait qui est connu pour pas mal de petites choses en fait. J'avais pas tilté son nom en fait sur, comme à chaque fois parce que j'aurais pas forcément dit. Donc c'est en fait, il avait en l'occurrence déjà bossé avec Alan Moore sur Neonomicon, donc qui est une suite ou un préquel, on sait pas trop encore de Providence, mais j'y reviens après. Il a aussi bossé en fait sur une série qui s'appelle Crossed.
Ouais.
Crossed, c'est complètement barré comme truc. Je le conseille vivement, j'en parlerai peut-être dans un focus plus tard. C'est une série qui est complètement en décalage en termes de dessin sur ce qu'il fait par rapport à Providence, parce que c'est un truc ultra gore, ultra gras. C'est vraiment vraiment cru comme truc. Là pour le coup, sur le thème de Providence, donc on est plus dans les années 30, ça colle. Je trouve complètement à l'ambiance de la série. C'est un truc très propre, très droit, beaux aplats et ainsi de suite. Bon, c'est pas juste les couleurs.
C'est 1929.
1929 ou 19? 19?
Il me semble que c'est 19.
Ah oui, non.
Quand on regarde les lettres, mais on a
pas. Ouais, non, mais enfin, en fait, je fais l'erreur à cause de Cthulhu, parce que je joue aussi, c'est pas. Bref, donc voilà pour les dessins. Et donc, comme tu l'as dit, donc, le scénariste, c'est Alan Moore. Donc, Alan Moore, je sais pas si je dois faire l'affront de le présenter encore ou pas.
Non, c'est. Oh, on en avait déjà parlé.
Est-ce que c'est le mari de Love Moore ou pas?
Non.
Ok, mais quand est-ce qu'on l'a eu quand tu,
on l'a vu pour trop de trucs, ce gars.
Bah, j'en ai parlé quand j'ai parlé de Swamp Thing dans une émission précédente déjà.
D'une part, et d'autre part, Prométhère.
Voilà,
on avait fait une petite présentation pour Prométhère.
C'est un gros auteur. C'est bon, le gars qui a fait V pour Vendetta, From Hell. Il a fait le meilleur épisode de Batman du monde entier, Killing Joke pour le citer. Donc c'est vraiment un putain d'auteur. Il fait des trucs un peu bizarres. Là, ces derniers temps, il arrive sur des trucs un peu zarbes, on va dire. Il faut vraiment accrocher à l'histoire. Soit on aime, soit on n'aime pas sur sa dernière série. Et là, en l'occurrence, Providence, c'est un peu ce genre de choses. Donc comme je disais un peu hors antenne, je peux comprendre qu'on n'accroche pas à cette série. C'est vraiment quelque chose de bizarre. Donc, en Providence, en fait, on va retrouver un homme qui s'appelle un reporter, qui bosse pour le Herald, le journal, qui s'appelle Mr. Black, et qui va en fait commencer à enquêter sur, sur des suicides qui sont arrivés suite à la lecture de certains bouquins. Un bouquin qui s'appelle Sous le monde.
Sous le monde.
En français dans le texte.
Et en français dans le texte. Et qui serait lui-même une traduction d'un autre bouquin qui s'appelle The Yellow Thing. Donc les fans de Cthulhu, les fans de Lovecraft auront compris la référence à Yellow Thing, qui est en fait The Yellow King, qui est une des créatures de l'univers de Lovecraft, il faut savoir. Donc au fur et à mesure de son enquête, en fait, il va rencontrer de plus en plus de personnes, des personnes qui sont de plus en plus bizarres, en fait. Au début, il va rencontrer un mec qui vit dans une chambre froide, quasi, parce qu'il veut préserver sa peau, son immortalité. On le comprend comme ça, en fait, en tout cas. Et donc, sur le fond, son enquête va s'avancer, il va s'éloigner un petit peu des villes, des grosses villes, pour aller de plus en plus dans des coins reclus, un peu bizarres. Il va rencontrer des gens qui ont une peau bizarre, qui ont des gueules un peu... je vais pas dire des rednecks, mais c'est un peu l'idée.
Même des accents...
Ouais, ouais. États-Unis. Et du coup...
Même des accents particuliers, ouais, on voit dans les bulles que leur texte est légèrement différent.
Ouais, c'est en fait, ils ont normalement une voix un peu caverneuse, un peu, je sais pas dire, de poiscaille, parce que c'est un peu le cas, au final. Et donc, en fait, il va se retrouver dans une situation vraiment étrange. Je vais pas en parler plus, c'est comme, enfin, si vous êtes fan de l'univers de Lovecraft, vous comprenez complètement ce que je veux dire, et si vous êtes pas fan, c'est un truc qu'il faut lire pour comprendre, en fait. C'est complètement sous-jacent en permanence, c'est plein de détails qui font des références à l'univers, en fait, c'est le problème.
C'est vraiment de la suggestion, en fait.
Voilà, c'est tout le problème de la série, c'est tout le problème d'Alan Moore dans cette série, c'est que, il s'approprie, il l'avait déjà fait, donc je l'ai dit avec Neonomicon, qui est aussi une série complètement sur l'univers de Lovecraft. Et si on comprend ça, en fait, Alan Moore a pris l'univers de Lovecraft, se l'est complètement approprié et a fait son univers à lui à l'intérieur. Donc elle est complètement remplie de références à Lovecraft, à certains de ses bouquins, aux séries qui ont écrit sur l'univers de Lovecraft.
Mais c'est pas fermé aux gens qui connaissent pas du tout Lovecraft.
Bah,
toi, tu dis si ?
En fait, je dis pas ça, je dis juste que je peux complètement comprendre qu'on aime pas la série si on est fermé à l'univers ou si on connaît pas l'univers.
Non, mais genre quelqu'un qui connaît pas du tout, il peut quand même lire
il
sans
peut,
être
il
perdu.
Il peut lire ça, c'est extrêmement verbeux.
Ouais.
Ce sont des textes à rallonge, il y a beaucoup de dialogues qui servent parfois à rien, vraiment, ça amène pas d'histoire, c'est juste de dialogue pour faire du dialogue. Donc c'est extrêmement verbeux à lire, c'est chiant par moment, même moi qui suis fan. Parfois, je me suis dit, ok, les gars, là, vous allez vraiment trop loin, mais il y a des petits détails à certains moments où on arrive sur le côté occulte de l'histoire qui sont explosifs. Ouais. C'est le gars qui va avoir une trappe, il va descendre dans une cave, il va voir un signe bizarre, et boum, il va se passer un truc extraordinaire derrière, il va se réveiller, en fait, tout ça n'existe pas. Enfin, il y a tout un côté ultra enfin, pas onirique dans le sens joyeux, mais onirique dans le sens je l'ai imaginé. Et enfin, moi, je kiffe parce que, bon, Cthulhu, Lovecraft, c'est ma cave en permanence. Donc voilà, mais encore une fois, si on n'est pas fan de cet univers, je peux tout à fait comprendre qu'on arrive à la fin du deuxième ou troisième show en disant c'est de la merde, je comprends pas.
C'est extrême comme...
Ah mais non, mais c'est pas... Enfin, je le permettrais, entre guillemets. Je tuerai pas les gens qui disent ça.
D'accord, d'accord. Bah merci Zef pour ça.
Ok.
Ben, oui. Tu l'as lu, qu'est-ce que tu en
Absolument.
As pensé?
Eh bien, je fais pas partie des catégories que Zef a citées. En fait, j'aime l'univers de Lovecraft, mais pourtant j'ai un peu été rebuté par Providence parce que effectivement, comme il l'a dit, c'est hyper, il y a beaucoup de blabla à un tel point qu'à un moment je tournais la page, en fait je voyais que le blanc des bulles et ça me saoulait déjà. Je me disais, il faut encore que je me tape. Bon, peut-être parce que au bout d'un moment j'en ai marre de lire de l'anglais. Peut-être qu'en VF ça aurait été un petit peu plus souple. Mais en tout cas, disons que effectivement pour trois pages de blabla un peu chiant, c'est-à-dire que il y a beaucoup de oui bonjour monsieur, vous êtes ce monsieur là, ah on vit dans telle époque, donc c'est cool parce que ça met les pions sur la scène, etc. On comprend quelle époque c'est, etc. Ce qui se passe et tout ça. Mais pour trois pages un peu chiantes comme ça, on tourne et là on a une page effectivement où on va apprendre un truc un peu bizarre, un peu ésotérique. On va dire ah ok, une créature machin, et c'est là que ça nous prend. Et donc là je suis très content, et juste après ça repart dans du blablabla. Et donc du coup on suit l'enquête de ce gars là c'est cool parce que du coup on le voit, on avance avec lui, on le voit qu'il découvre quelqu'un, il parle avec quelqu'un, il dit ah, il faut que vous alliez voir ce gars là, donc scène d'après il va voir ce gars là, donc c'est cool, ça traîne pas au niveau de l'action. Mais par contre à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, c'est des tonnes et des tonnes de blabla pour un tout petit peu de trucs qui moi m'a réjoui. C'est voilà, parler d'une créature ou d'un bouquin bizarre et tout, là je me dis cool, il y a des gens qui sont suicidés pour des bouquins, c'est cool. Mais par contre, c'est invitable, quoi.
C'est... Ouais, c'est un peu. En fait, ce qu'il y a, c'est que toute cette présentation de dialogue, en fait, pré-dialogue, tout ouais. ça, en fait, ça met l'accent en fait sur la société dans laquelle il est, en fait.
Bien sûr.
C'est mais... qui est raciste, qui
ça, est pas, ça, je suis qui est homophobe,
qui est truc. Et du coup, en fait, tout va là-dedans. En fait, tout c'est un tableau qui va être posé et qui va donner vraiment toute une ambiance. Et surtout, quand une action va arriver, justement, qui est pas forcément occulte ou quoi que ce soit, on va comprendre en fait qu'elle est dure à vivre pour la perse, pour le héros ou quoi.
Ça, je suis entièrement d'accord, mais du coup, plus je tournais dans les pages et plus je me bouffais ce blabla, je me suis dit, les dessins m'accrochent pas particulièrement, je les déteste pas, mais je veux dire, ils ont rien d'original.
Oui, c'est vraiment.
Ils sont propres, hein, mais il n'y a pas de style particulier. Tu vois, on va parler de Rumble tout à l'heure, qui a un style vraiment particulier, bon, qui a rien à voir, mais qui est vraiment singulier, et tu dis, ok, là, je suis dans une BD qui m'accroche les yeux. Là, il n'y a pas de style particulier, et du coup, j'ai passé les deux premiers fascicules à me dire mais pourquoi c'est une BD en fait, pourquoi ce serait pas un roman, juste ça me paraîtrait très bien que le mec, au lieu de montrer quelqu'un qui est habillé comme ça ou qui fait telle gueule, il le décrit avec des mots et ça passerait très bien. Il y a certaines cases que Seth n'a pas spoilé effectivement, où effectivement là tu te dis ok, le dessin sert à quelque chose, mais c'est vraiment sur les trois premiers fascicules, c'est vraiment le truc. Enfin, il y a quelques pages où vraiment tu dis ok, là j'en prends plein les yeux, mais le reste c'est juste des gens qui parlent en costume et c'est chiant.
D'accord, c'est encore un avis assez extrême, c'est très intéressant, pour de vrai. On va écouter Lane, qu'est-ce que tu en as pensé?
En fait, dès le début, c'était un peu mal parti entre Providence et moi, parce que alors je vais pas être d'accord avec Zef, dans le sens où pour moi, Alan Moore, ok, c'est un super grand scénariste, mais. Même quand on est un grand scénariste, on peut faire de la merde. Ou on peut... non, mais...
S'égarer.
Bah oui, en fait, j'aime pas les espèces de trucs genre... Ce mec, il a fait, il faut tout lire parce que tout est bien. Non, il y a des fois, tu rates ce que tu passes à côté de ton truc.
Non, parce qu'en fait, ou alors je me suis mal exprimé, j'ai pas dit ça en fait.
C'est même pas pour toi, mais il y a des trucs comme ça, quand tu lis du comics, on te dit, oh, putain, lis tel mec parce que tout ce qu'il a fait, c'est trop bien. Non, enfin, moi je nuancerais. Donc il y a ça, il y avait Jason Burroughs, je déteste Jason Burroughs. Donc c'était un. Je trouve son style en fait très froid, donc ça me parle pas à moi. Je dis pas que c'est moi, je dis que moi je. J'aime pas.
D'accord.
Donc, par contre, ça parlait de Lovecraft. Donc là, c'était plutôt bien parti, parce que Lovecraft, c'est vraiment mon truc. Et c'est en fait, c'est là aussi que ça dessert la série, c'est que, en fait, sur ce coup-là, je compare Alan Moore à un espèce de. Vous savez, ces oiseaux, en fait, qui viennent phagocyter les nids des autres, en fait.
Ouais.
Genre,
ils
poussent les œufs des autres, ils mettent les leurs. Ouais. Et en fait, ils s'approprient l'univers de Lovecraft, mais il met sa patte à lui dessus, et ses obsessions à lui, et. Ce qu'il a envie de dire à lui, et du coup il fait dire à Lovecraft ce qu'il a envie de dire, et ça j'ai pas non plus accroché, puisque Alan Moore il utilise plein de thèmes qui sont assez loin de l'univers de Lovecraft. Il a un univers comme qui est hyper sexualisé, qui est hyper sur la discrimination, sur les gens qui vivent mal leurs différences. Ça c'est ses thèmes de prédilection à lui.
Ouais, alors je vais nuancer, mais on va pas rentrer dans le débat, mais en fait Lovecraft a créé tout son univers de Cthulhu à cause de ça, en fait. C'est juste donc c'est un autre débat à ouvrir, mais pour le coup à la base Lovecraft c'était un mec qui était raciste, qui était homophobe,
oui.
Et tout ça, donc c'est pour ça qu'il a créé cet univers là donc au final ça se ressent aussi dans l'univers de Moore.
Je trouve que le fait de prendre un univers et de mettre ses trucs à lui, à ce moment-là, autant créer son univers.
Parce que ça rebondit bien en fait dans le verre Lovecraft, c'est pour ça en fait.
Parce que là, enfin, moi c'est que mon avis en fait. Moi quand je lis du Lovecraft, j'ai envie de lire du Lovecraft et pas du Alan Moore.
Mais juste si je me trompe pas, Lovecraft il a pas posé des bases. Après il est mort ou en tout cas il a rien
écrit
plus.
Ouais.
Et il y a plein de gars qui ont continué son œuvre.
Ah oui, il y a plein d'auteurs.
Et toi tu penses que Alan Moore il le fait pas bien ou qu'il le fait pas?
Moi j'aime pas sa façon de le faire.
D'accord, t'aimes pas sa façon.
Je comprends ce que veut dire Len, c'est que les auteurs qui ont fait ça en fait ils sont rentrés dans l'univers Lovecraft,
okay.
Ils ont respecté
voilà.
Son univers,
okay,
alors que Alan Moore il arrive, il s'approprie quelque chose qui n'est pas à lui pour le modifier à sa sauce, okay. Ça c'est difficile,
c'est marrant que vous le ressentiez juste d'un comics en fait.
Alors, en fait c'est, enfin je sais que Lane c'est le cas, mais enfin on est très fan de l'univers de Lovecraft, du coup enfin moi j'ai dû lire 90% de tous les écrits qu'il y a eu sur l'univers de Cthulhu et de Lovecraft,
ouais.
Donc effectivement on peut le ressentir en le lisant ça en fait.
D'accord. C'est impressionnant parce que du coup moi je m'y intéresse pas vraiment, mais c'est vrai que moi comme Ben qui à mon avis n'est pas beaucoup lu beaucoup de Lovecraft
avant. Non mais il a beaucoup joué.
Oui voilà, je connais un peu l'univers via Zef, mais non
mais
c'est
je
vrai.
Trouve, enfin moi je suis entré assez simplement dedans parce que justement les scènes d'exposition où il parle, j'ai pas trouvé ça dérangeant.
C'est la question que je posais à Zef parce qu'il disait je comprends complètement qu'on aime pas si on est étranger à l'univers de Lovecraft, mais à l'inverse. C'est pas fermé à un néophyte.
Non, je demande.
Ok, d'accord.
C'est ça qui est bien en fait, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire que si tu connais rien, tu peux le lire. Tu connais un peu Lovecraft, tu vas voir deux trois petits trucs qui sont posés. Tu fais ah mais tiens ça me parle. Tu connais super bien, tu vas en voir encore plus. Et donc tu vas kiffer. Moi il y a plein de trucs quand je lisais, je me disais ah ouais putain il fait référence à ça, il fait référence à ça. Je dis pas que c'est mauvais, je dis vraiment que ça correspond pas à ce que moi j'attends quand je lis Lovecraft.
Ça je peux comprendre totalement en fait. Voilà. Et pour finir, tout ce que je dis sur l'univers de Lovecraft ça. Je sens que je vais me faire tuer sur Twitter, mais c'est sujet à débat, à des débats très longs en fait. Donc c'est ce que je pense moi en fait. Hein. C'est encore une fois très personnel.
Si, tout le monde a le droit d'avoir son opinion.
Non, mais voilà, j'ai pas envie de me faire tuer. Mais pour le coup, ce qui est cool, il y a plein de petites pépites là-dedans, comme je disais, il y a plein de références. Si vous êtes fan de l'univers, lisez, il y a des trucs vraiment cool. Et pour le coup, il y a une petite scène où à un moment, un gars prend des espèces de bocaux et dedans on entend des toutes petites voix. Ouais, c'est pas trop ce que c'est en fait, mais ça c'est une référence complète à certaines œuvres. C'est jouissif quand on est fan quoi. Donc c'est
alors, vraiment... Juste pour conclure, est-ce que du coup, vu que Lane et toi Zef êtes des experts, est-ce qu'au final c'est pas plus une série pour les noobs? Les noobs de Lovecraft?
Question dure. Moi je le prendrais vraiment comme un truc qui s'adresse aux fans, mais c'est perso.
Lay?
Oui, je pense que c'est un hommage et à la fois c'est une espèce de continuité, mais après, voilà.
Et pour conclure de ouf, Ben?
Je vais pas lire la suite. Non, c'est très certainement. Enfin, tu vois, sauf si Zef me dit ou Lane me dise à un moment, franchement, lis, c'est vraiment ça devient de plus en plus creepy.
La fin sera pas ouf.
Ouais, mais tu vois, en fait, non.
Ok. Donc je rappelle juste que, excusez-moi, que c'est une mini-série en 12 épisodes. Hein, on l'a pas mentionné au début et c'est chez Avatar Press. Ça vient de commencer, c'était en mai 2015. Vous pouvez le trouver dans toutes vos bonnes crèmeries et sur les sites numériques, mais c'est mieux en papier. On va passer à la revue suivante. Merci pour cette revue très intéressante. On va passer à Rumble, c'est Lane qui va nous en parler. Ça c'est chez Image Comics, on a un petit peu plus l'habitude. Est-ce que tu peux nous faire découvrir ce comics?
Bien sûr, Eric. Donc, Rumble, qu'on pourrait traduire donc, par grondement, qui déjà donne un petit peu l'ambiance de ce comics. Donc, c'est chez Image, comme tu l'as dit. C'est de John Arcudi, qui travaille sur Hellboy, Ape Sapiens, BPRD, on l'a déjà entendu.
Oui.
De James Aaron, qui, même punition, a bossé sur, en tandem justement sur Hellboy, Ape Sapiens, BPRD.
Donc ils ont l'habitude.
Ils se connaissent bien. Et au niveau des couleurs, on va retrouver Dave Stewart, donc qu'on ne présente plus parce que. Non, pas. Je vous vois venir, non, c'est pas Dave Stewart, c'est un autre Dave Stewart.
Vous allez demander si c'est le fils
Dave
de Patrick Stewart.
Eurythmics.
Ah, ok.
Ok, d'accord, c'est pas cool. Non, mais je suis toute seule, c'est pas cool.
Je connais Aline Heller.
Je l'avais, mais j'ai pas voulu rajouter.
Ok.
Mais avançons.
Ouais, qui est comme la superstar des coloristes. Et qui, par exemple, en ce moment, bosse sur Hellboy en enfer. Donc, oui, ça va te parler, parce qu'en plus, le set était magnifique. Et sur Starve, aussi une autre grosse série chez Image. Donc, le pitch. Alors, je ne vous demanderai pas rire, parce que moi, c'est comme ça que je le résume.
Tu n'as pas beaucoup de temps, donc...
D'accord, alors je vais me dépêcher.
La clémentine.
Attention. Un épouvantail rentre dans un bar et... non, c'est pas une mauvaise blague.
C'est trop bien.
C'est vraiment comme ça que ça commence notre histoire. Donc dans ce bar, il y a Bobby, qui aimerait beaucoup qu'un de ses clients, un ancien vétéran du Vietnam, lui règle sa note, long comme le bras. Et celui-ci s'en va un soir en lui proposant de payer avec un gribouillis sur une serviette. Donc 5 minutes après, il revient et il est attaqué par un épouvantail qui porte une épée et qui vient de lui couper un bras.
C'est
le début. Donc Bobby vient au secours de son client en neutralisant l'épouvantail. Et il s'éclipse pour appeler la police, pour prévenir les secours, parce qu'il y a quand même un mec qui perd tout son sang dans son bar et un épouvantail qui est mort par terre. Et quand il revient, il n'y a plus personne. Donc il va rester juste l'épée. Et donc Bobby se retrouve en possession de cette épée. Et en même temps, on voit qu'à travers donc, la ville où il vit, il y a des choses étranges qui commencent à se passer. Je vous en dirai pas plus, parce que... Après, je rentrerai dans trop de détails et la série est vraiment trop ouf et j'aurais envie de vous dire trop de trucs. Je pense que déjà, avec ça, si je vous ai pas accroché, c'est je vous accrocherai jamais. Donc, faut quand même savoir que j'ai fait changer donc leur lecture à mes petits camarades un peu au dernier moment. Parce que Rumble, ça faisait longtemps que je voulais la lire, et donc quelques jours avant l'enregistrement, en fait, j'ai enfin pu mettre la main sur le TPB qui contient les 5 premières issues. Et quand je l'ai lu, je vais non, c'est trop ouf, c'est trop ouf, c'est trop ouf, il faut que je leur en parle, et il faut surtout que je leur fasse dire, parce que je vais pousser le vice. Franchement, cette série, je la mets au niveau dans mon top 5 au niveau de Fear Agent. Donc, juste.
Ah ouais, direct ouais.
Top 5 images ou top 5
Top 5 de mes séries.
Parce qu'il y a le tir image, c'est encore autre chose, ça.
Ouais, ça m'a rappelé Fear Agent, en fait, dans le. J'utilise jamais cette comparaison à la légère. Parce qu'au début, en fait, quand vous commencez la série, vous avez l'impression que c'est juste l'histoire d'un mec avec une grosse épée qui va défoncer des gens. Et en fait, très vite, vous vous rendez compte que. Ça va vous parler à c'est comme un gâteau, en fait, c'est composé de plein de couches, de plein de choses, et ça va vous parler de valeurs, de mythologie, de la vie, de la mort, de l'amitié, de ce qu'on peut être poussé à faire et qu'on n'a pas forcément envie de faire. Enfin, les persos sont hyper attachants. Il va y avoir Bobby, bien sûr, qui est entre guillemets un héros, mais qui n'a pas du tout l'étoffe d'un héros. Il y a Dale, qui est un peu son compagnon, qui est un peu un redneck avec un énorme tatouage sur la poitrine.
Il
avec est-ce que ce tatouage me rend cool? J'adore son tatouage.
Il
arrête pas de bouffer tout le temps, il dit de la merde. Et bien sûr, il y a Ratrak. Donc Ratrak, c'est l'épouvantail qui, en fait. Je sais pas si je vous le dis ou si je vous le dis pas. On leur dit pas.
Non, moi je dis pas.
C'est pas révélé tout de suite. Donc
voilà. Donc il y a Ratrak, dans le numéro 3, vous saurez tout sur lui. Et franchement, c'est un personnage qui est vraiment trop cool. Et il est pas seulement cool parce qu'il a une grosse épée, il a vraiment toute une mythologie. Il est super classe. D'ailleurs, la façon dont il raconte son histoire. En faisant participer donc Bobby et Dale qui n'arrêtent pas de le couper parce que c'est deux humains et ils sont tout le temps genre mais what the fuck mec, qu'est-ce que tu nous racontes, enfin, j'avais trouvé cette scène trop énorme. Niveau dessin, je trouve qu'il y a un vrai parti pris. J'aimais déjà le dessin de Aren sur BPRD etc, mais là il se rapproche du dessin, je sais pas si vous connaissez un peu Tank Girl. Les derniers Tank Girl, en fait, avec des personnages qui sont très très anguleux, très machin, et en fait ils dessinent, ils sont pas beaux, les personnages sont pas beaux, il y a beaucoup de monstres, et en fait c'est plus, ils vont avoir des détails qui vont t'accrocher en fait sur le monstre, où tu vas avoir envie, il va y avoir un truc mignon, il y a par exemple une hydre avec plein de têtes qui est super, qui joue au ballon,
ouais,
qui est super
mignon,
qui s'appelle Lorna en plus, enfin, à la fin en fait, Aren et Arcudi bossent vraiment en tandem pour créer tout un univers avec plein de bases qui t'emmènent, qui vont t'emmener loin et qui vont te donner envie d'en savoir plus et qui est attachant alors qu'en même temps c'est par moments c'est dégueulasse clairement. Et non, enfin, au niveau des couleurs, c'est ouf, la palette, utilisée, toujours dans les bleus, dans les oranges. T'es dans un monde un peu crépusculaire, on te fait rêver. Il y a toujours cette notion d'onirisme, etc., cette notion épique. Voilà, écoutez, si je voulais pas déjà survendu, là, je sais pas ce que j'ai fait, donc franchement, lisez Rumble.
Bon, moi j'avais pas eu besoin de me faire convaincre, mais j'ai été reconvaincu de le relire une deuxième fois, enfin, en tout cas de ce qui est sorti. Ben, on va écouter ton avis.
Ben, moi je suis assez chaud aussi dessus. Je connaissais pas du tout, je vais pas redire ce que Lane a dit déjà. Je vais essayer non plus de pas trop en dévoiler parce que c'est vraiment cool de voir case après case. Non, mais en fait, en gros, ce qu'on peut dire sans vraiment gâcher le truc, c'est que. En fait, parce que je vais le dire parce que je vais faire une comparaison. En gros, dans ce monde, on se rend compte avec les personnages, bon, de toute façon, Lane a dit qu'il y avait des monstres, que certains de ces monstres se cachent dans notre monde. Et ils font, enfin, sont un peu incognito, tu vois, ils ont pas envie d'être emmerdés, etc.
Ouais,
et ça m'a fait un peu penser à Men in Black. Parce que je vais faire une autre comparaison. Je sais pas si vous avez déjà regardé le dessin animé Men in Black qui passait sur M6, et je trouve que le trait est un peu similaire, c'est-à-dire un peu carré, des jambes un petit peu, comment dire. Des fois, t'as une jambe qui est en zigzag, on sait pas pourquoi. C'est pas le pantalon, c'est la jambe qui est comme ça. Tu dis,
ouais, c'est pas symétrique ça.
Non, mais voilà, mais c'est pas grave parce que.
Non, mais c'est cool.
Voilà, c'est vraiment très bien. Le bestiaire est vraiment ouf. T'as des monstres. En fait, c'est des monstres qui ont des fonctions, on va dire. Scénaristique basique, mais par contre au niveau du design c'est pas des monstres que tu vois partout quoi, tu vois, genre ils ont des ailes, tu dis ok, n'importe quel monstre a des ailes, mais c'est pas des ailes, enfin je sais pas, c'est vraiment très particulier, et je m'attache même aux créatures qui sont pas forcément gentilles ou méchantes. D'ailleurs je trouve qu'il y a pas de ligne tracée, c'est pas manichéen, on se dit pas, même le héros qui raconte son histoire, on se dit pas ouais il est forcément, c'est un super comment dirais-je, c'est pas un héros qui a rien à se reprocher, les méchants ils sont un petit peu, ils ont été opprimés aussi, donc ils ont une raison d'être méchant, etc. Donc j'ai vraiment accroché, les persos sont vraiment attachants, le trait vraiment très très bien, Donc voilà, je vais continuer parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que réserve l'histoire de Ratrack.
Bah, je pense que ça va être bientôt un home run. Zef, qu'est-ce que tu en as pensé?
Désolé. Non, mais en fait, alors je reviens juste vite fait sur le dessin. Là, il me disait que c'était pas très beau parce que les personnages n'étaient pas très beaux, mais je les trouve vraiment badass pour le coup. Ils ont une classe folle. Non, mais c'était pour rebondir juste sur ça. Mais après,
tu as coupé la parole.
Alors, tu dis rien.
Je savais que ça allait être mal perçu. Mais pour moi, en fait, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que j'ai commencé à lire le premier issue. J'ai commencé le 2 et j'ai arrêté. Et je me suis dit que ça me faisait chier parce que mon budget comics allait encore augmenter. Parce que j'allais devoir acheter le premier TPP parce que j'ai envie de lire la suite.
Donc en fait, tu t'es auto-code bloqué.
Ouais.
Ok.
En fait, je voulais lire le truc en papier directement. Je voulais pas le voir sur un écran. Je voulais avoir le truc en visu. C'est un truc que je vais acheter et que je vais suivre parce que c'est. Enfin, le premier issue m'a juste vendu le truc. Mais je crois que juste la scène dans le bar, juste ça, en fait, j'aurais pu m'arrêter là et me dire ok, je sais que je vais aimer, donc je vais l'acheter, je vais le lire. Et le gars qui arrive avec une épée qui ressemble à Black Knight Sword dans Dark Souls, enfin, le truc, tu fais putain, c'est what the fuck total. Non, j'ai kiffé ma race, juste.
Allez, wow. J'ai oublié de préciser pardon, au niveau du dessin, juste au niveau du dynamisme. Du mouvement des personnages, de quand le personnage se déplace avec vitesse et tout, c'est hyper simple mais c'est hyper efficace, c'est à dire qu'en un dessin c'est hyper fluide, tu te dis ok, lui là en fait il est, à un moment on voit un espèce de chien qui fuit une explosion, et en fait le chien est dans une position où tu te dis il est en train de déraper, il est en train d'aller à toute vitesse alors qu'on le voit pas se déplacer, tu vois, enfin le dynamisme est assez dingue.
Dans le même exemple, il y a un personnage qui détient un certain objet dans sa main d'une certaine longueur qui en fait tue un ennemi, un antagoniste, un peu comme si c'était une balle de baseball, et en fait on retrouve le geste, c'est-à-dire c'est une image naturellement, mais on comprend exactement la référence. C'est une épée, mais ça ressemble à juste un mec qui s'amuse à tuer des gens de la façon dont on voit des balles de baseball. Donc on a fait deux références au baseball, on est vraiment américain ici, merci pour cette revue. On va passer la troisième. Ah non, excusez-moi, je vais juste me faire le résumé. C'est bien donc d'Image Comics, on l'a déjà dit. Ça a commencé en décembre 2014 et ça continue. Et donc le TPB est disponible à l'achat. On va passer à la troisième de revue. Merci Lane. C'est Ben qui va nous parler de Age of Reptiles, Ancient Egyptians. T'as vu, j'ai même pas mis beaucoup d'accent cette fois-ci.
Ouais, surtout que ça se passe en Afrique, donc tu peux.
Donc j'aurais dû dire comme ça. Age of Reptiles là.
Ok, c'est cool de commencer là-dessus.
Vas-y,
donc, l'âge des reptiles, les Égyptiens anciens, parce que je pense qu'on peut le dire en français. C'est un comics qui sort chez Dark Horse, qui est écrit et dessiné par Ricardo Delgado, qui est responsable de toute la série parce que c'est une série qui existe depuis les années 90. En fait, c'est un peu un label si tu veux. Il y a eu déjà 4 séries qui sont sorties sous le label Age of Reptiles. Donc celui-là, c'est le cinquième. À noter qu'il a gagné un Eisner Award. Il a été nominé pour Talent Deserving of Wider. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais bon, il a été nommé pour ça et il a gagné celui de la meilleure série limitée.
D'accord.
Donc voilà. Donc ça raconte quoi ? Eh bien, ça raconte celui-là en tout cas, parce que les autres de la série sont à différentes époques des dinosaures. Là, on se trouve dans l'Afrique préhistorique. J'ai pas trouvé de meilleur, enfin de truc plus précis. Je sais pas si c'est le Crétacé, le Jurassique, j'en sais rien. En tout cas, ça raconte la vie de. On suit un dinosaure. On ne sait pas comment il s'appelle. Je pense qu'il a pas de nom. Voilà. On suit sa vie un peu, ses journées. Il se balade, il chasse, il défonce des dinosaures, il trouve une meuf, il nique une meuf, il défend la meuf qui est enceinte, etc. En gros, il se passe plein de trucs. Il croise d'autres dinosaures qui donc ont leur vie à eux. Il leur arrive des trucs. C'est assez assez cru. Il y a beaucoup de, évidemment, hein, ça va pas être édulcoré. Il y a beaucoup de tueries, de sang, de déchiquetage, etc. Le gros avantage, je vais peut-être me faire contredire par mes petits copains, de ce comic, c'est qu'en fait, il n'y a absolument aucun texte. Et ça, je trouve que c'est très bizarre, mais c'est très bien. Ça fait du bien, surtout quand on a lu Providence juste avant. non, en fait, ce qui est cool, c'est que je savais. En fait, très honnêtement, j'ai choisi ce truc parce qu'il y avait des dinosaures. Juste ça, j'ai dit go. J'avais pas ouvert le truc. Quand j'ai ouvert le truc, j'ai dit ok, pas de texte. Les dessins sont jolis. Les dessins sont jolis, les couleurs sont jolies. Bon, le dessin est particulier, donc on peut ne pas aimer, mais en tout cas, moi, le trait, je le trouve très joli. Des fois, il y a carrément des fresques. Enfin, si je peux donner ce mot, une case entière où genre tu vois donc le protagoniste se déplacer et croiser d'autres dinosaures dans une jungle luxuriante avec des couleurs vraiment vraiment dingues. En gros, pour moi, c'est un documentaire animalier sur les dinosaures. Sans voix off, c'est-à-dire que voilà, tu comprends complètement ce qui se passe.
Il y a pas Michel Croton qui.
Il y a pas Michel Croton.
Bienvenue.
Voilà. tu comprends complètement ce qui se passe parce que au-delà de l'action qui est claire, les expressions, si on peut dire, les intentions des dinosaures, malgré le fait qu'ils ne parlent pas et qui disent pas ce qu'ils pensent, on comprend complètement ce qui se passe. Enfin, je trouve ça hyper apaisant à regarder. Et voilà. Enfin, en gros, je. Ça peut paraître un peu chiant, enfin, si tu le feuillettes et tu dis ok, c'est quoi, c'est juste des dessins, c'est pourri, mais si tu lis, il y a une histoire. Bon, évidemment, il n'y a pas de. C'est pas un thriller avec des complots, etc. Mais c'est juste, je vous dis, un documentaire, tu suis la vie de dinosaures. Et j'ai vraiment envie de lire les autres de la série qui traitent d'autres sujets à d'autres époques, mais toujours des dinosaures. Il y en a un où c'est la migration d'une espèce, il y en a une autre qui est assez ouf, où t'as une bande de dinosaures qui tue toute une race entière, sauf un œuf, et l'œuf, quand il devient grand, part se venger. Donc tu vois, j'ai trop envie de le voir, il a l'air trop bien. Franchement, et je pense que c'est sur le même modèle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte du tout. Après, il y a toujours un petit blabla de l'auteur à la fin qui parle un peu du truc, mais il explique pas, enfin je veux dire, il ajoute rien à l'histoire. Je trouve que ça suffit à soi-même et je trouve ça hyper apaisant. Voilà, donc je vais regarder la suite.
Ok, parfait. Lane, qu'as-tu pensé de ce comics?
J'étais très contente que Ben nous fasse lire ce comics, parce que j'avais jamais eu l'occasion de le lire alors que je le vends. Hein, voilà.
Alors bon.
Ah, donc tu le vends à qui? À des clients très sympathiques. Non. Par contre, non, franchement, j'ai détesté, mais.
Tu l'as bien fait, j'y ai cru.
T'as vu, hein? Ouais. Acteur Studio, 8 heures par semaine. Non, il faut que je sépare le côté vraiment j'ai pas aimé parce que c'est pas ma cam, parce qu'aussi bien au niveau du dessin c'est pas ce qui va me plaire, le fait qu'il y ait pas de parole ça m'a un peu saoulé, enfin c'est mais d'un autre côté franchement le mec je connaissais pas son boulot et je lui dis bravo parce qu'effectivement sans parole il assume tout, du coup il arrive à te faire suivre l'histoire. C'est suffisamment bien mis en page, bien amené, etc. pour que finalement tu suis ce dinosaure pendant tout le truc et tu comprends tout ce qui lui arrive. Et effectivement, je te rejoins sur le fait que t'as l'impression de regarder un documentaire de wildlife où t'es voilà, en train de faire. Et puis tu te prends à dire oh merde, mais il va se passer ça et tout machin, mais voilà. Après, je t'avoue que clairement j'ai eu du mal à arriver au bout des trois issues et que je me suis dit non, la suite, non.
Ok. Oui, j'ai oublié juste de dire que l'auteur, avant de faire des comics ou en même temps, je sais pas, a participé, a bossé dans le cinéma et il a bossé sur notamment Wall-E et Dragon, c'est le truc de DreamWorks.
Alors Wall-E, il n'y a pas texte non plus.
Non, mais c'est pas ça, mais il a bossé à l'artistique, il n'a pas fait le scénar ni rien, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est pas n'importe qui.
C'est pas anodin. D'accord. Je vais te passer Zef. Vas-y, Zef, ça va.
Déjà dans Wall-E, il y a du texte. Excuse-moi.
Quoi.
Il y a des humains, donc il y a des textes. alors en fait, moi j'ai pas aimé du tout. J'ai pas accroché du tout à la série. Parce que c'est pas du tout
pourquoi
ma cam. C'est pas du tout ma cam. Hein. C'est pas le genre de truc. Après, bon, comme disait Lane, bon, chapeau à l'auteur pour avoir dans les dessins, dans la façon de raconter, dans les dessins, raconter ce qu'il veut, tout ça. Tout ça. Donc, juste ça m'accroche pas du tout. Je vais faire une analogie un peu bizarre. Ça m'a rappelé Blame, le manga, pour ceux qui connaissent.
Pas
ok, d'accord. Blame, en fait, c'est pareil. Tout le monde parle en disant putain, c'est ouf, tu devrais lire, machin et tout. J'ai commencé, c'est un truc, il doit avoir peut-être une bulle tous les 10 tomes.
Ouais.
c'est un peu le cas. Et du coup, alors, les gens aiment parce qu'ils rentrent dans la méta du truc, si on veut. Et là, c'est pareil. Moi, ça me fait chier, en fait. Ça me fait chier de tourner des pages pour tourner des pages.
C'est toi qui interprète. Bon, là, je pense
voilà,
pas que ce soit.
Là, c'est pas trop aussi, le cas, ouais. Mais c'est, en fait, ce que je voulais dire, c'est que acheter un comics ou lire un comics. Enfin, pas le lire pour le coup, regarder les images, non, ça m'intéresse pas. Faut qu'il y ait une histoire qui transpire à travers les textes, faut qu'il y ait des textes, faut qu'il y ait des blagues ou des trucs dedans, mais juste là, ça m'a pas du tout intéressé. Mais en fait, je le savais déjà au début.
Je trouve ça vachement plus balèze de raconter un truc sans texte.
C'est pour ça, voilà. C'est pour ça que je dis,
mais du coup,
chapeau,
je
mec,
que,
chapeau,
je
mec,
qu'on puisse
ça,
pas rentrer dedans.
C'est juste
voilà.
que ça m'intéresse
ouais,
pas.
Ouais, d'accord.
L'histoire du dinosaure, les crétacés, les trucs, ça m'intéresse, mais pas comme ça.
D'accord, parfait. Je suis un peu surpris que vous soyez aussi radicalement opposé au l'absence de texte. Ça vous a autant
non, mais je pense que c'est le thème aussi, c'est pas. Enfin, Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus le thème dans lequel
vous êtes rentré. Il aurait fait un truc. Comment ça s'appelle ce manga avec le dinosaure là qui est un peu con enfin, je sais plus,
Gon.
Voilà. Gon. Il aurait fait un truc dans ce sens-là, j'aurais sûrement kiffé. Mais là, c'est juste que c'est.
Bah, il voulait être proche de la réalité, je me suis
assez réaliste. Dans, mais en fait, what the point quoi. Je vois pas l'idée en fait derrière tout ça et ça m'intéresse aussi.
D'accord. Alors, donc le petit résumé, c'est disponible chez Dark Horse. Ça a commencé récemment en juin. Nous, on vous a fait la revue des trois premiers. C'est le cas.
Il y en a quatre. Hein.
C'est une mini-série de quatre. C'est vrai qu'on aurait pu attendre la fin pour savoir s'il allait survivre.
Je
vais
pas spoiler.
Spoil, non. Mmh. Hein, parce que quelques millions d'années plus tard, ils sont où les dinosaures ? Ah, ils sont où ? Bref, merci pour ces revues. Comme d'habitude, vous pouvez nous faire vos commentaires sur la page Facebook ou avec le compte Facebook @comicsoutcast ou Twitter. Hashtag. J'ai dit quoi ?
Le compte Facebook, le compte Twitter @comicsoutcast.
Oui, mais j'ai dit d'abord Facebook et ensuite Twitter.
Ok.
Ne me reprends pas quand je me trompe pas.
Deux fois Facebook. Mais c'est là. Voilà. Oui, c'est pas.
Twitter. je verrai au montage. Hein. Non, cette émission n'est pas montée. Avec le hashtag comicsoutcast, donc je disais. Merci pour ce review. On va passer à la suite. Il s'agit de Wade Lastman et c'est Zev qui va nous en parler tout de suite après ça. De retour dans Comics & Outcast, 27e épisode, c'est Zev qui reprend la parole pour nous parler de la série de chez Vertigo, Why the Last Man.
Ouais, alors pourquoi? Moi je dirais Y the Last Man, parce que voilà.
On est en France, France, we speak French.
Voilà, si on veut. Donc Y the Last Man, c'est... est-ce que je raconte l'anecdote ou pas? Ouais, c'est une des premières séries que j'ai relues quand je me suis remis au comics il y a super longtemps. C'est bon. C'est pas ma vendeuse de comics qui me l'avait dit, qui me l'avait foutu dans les mains, mais c'est un vendeur qui me l'avait vendu, donc du coup... J'ai pris le premier tome, j'ai lu le soir même, je suis revenu le lendemain pour acheter le deuxième, et je crois que j'ai dû revenir le surlendemain pour acheter le troisième, et ainsi de suite, quasi, à la chaîne. Donc voilà.
Tu parles des issues ou des TPB ?
Des TPB, moi d'accord, je les ai jetés en TPB direct.
Ok. Parce que ça a commencé il y a un petit moment, hein. Ouais, c'est en 2002.
2002-2008. Donc au niveau du scénario, on retrouve Brian K. Vaughan. Ah, ça y est, voilà.
Brian K. Vaughan.
Si on veut. Bon, bref. C'est un mec qui a pas mal bossé en fait, il a fait une autre série qui s'appelle Ex Machina. Ex Machina, si vous n'avez pas lu, je vous conseille très largement aussi, c'est une putain de série. Runaway, qui est très bien aussi, et qui a fait pas mal de petits boulots sur X-Men, dans l'autre en l'occurrence. Enfin, il a fait plein de petits trucs sympas. Et il a participé aussi à une série qui a eu son petit succès, qui s'appelle Lost, et qui il est arrivé en fait à partir de la saison 3. La saison 3, pour ceux qui se rappellent de Lost à ce niveau-là, c'est la saison qui se cassait la gueule.
Oui, avec la grève des scénaristes.
Ouais, et à un moment, il y a eu un épisode où on disait « We have to go back !» Voilà, donc en fait, il a participé à tout ce renouveau de la série sur le truc, le côté flashback, flash-forward, machin et tout. Et donc, c'est très important en fait pour la suite dans Y The Last Man, mine de rien. Au dessin, on retrouve Pia Guerra. Guerra.
Je sais pas, je suis italien.
Voilà. Qui était la principale dessinatrice sur la série, parce qu'il y a eu d'autres dessinateurs, mais c'est celle qui a fait quasi tout. Qui a pas fait grand chose après ça, en fait. Elle a fait quasi que ça, je crois d'ailleurs. La série a eu pas mal de. A eu une récompense, a eu un Eisner Award en 2008 pour la meilleure série la plus continue, je crois, ou un truc comme ça. Bon, pour dire qu'elle a quand même une récompense, ça vaut ce que ça vaut.
C'est pas rien.
C'est pas rien. Rentrons dans le vif du sujet, rentrons dans l'histoire de Why the Last Man. En fait, dans le premier tome, on retrouve un protagoniste, le protagoniste principal. Je vais pas l'appeler un héros.
Protagoniste principal, Euphémisme Match.
Ok. Qui s'appelle Yorick Brown et son singe, qui est un singe capucin, qui s'appelle Umperson. En fait, Yorick, c'est un peu un loser. C'est le loser de la vie. C'est le gars qui a pas de boulot, qui souhaite être un prestidigitateur.
Wow.
Hors du commun. Putain, je me suis entraîné pour le dire. et donc, dans le premier tome, on le rencontre dans sa chambre. Il a la tête à l'envers. Il est en train de faire un tour. Il est au téléphone avec sa copine qui est en Australie. Donc, il habite, je crois que c'est pas à New York. Non, c'est à San Francisco ou un truc comme ça. Il est sur la côte ouest. Et on le rencontre là-dedans, il part avec sa copine, il veut la demander en mariage, machin, il sait pas comment s'y prendre. Et la série, en fait, le premier tome va se découper sur plusieurs personnages. On va rencontrer à côté de ça la mère de Yorick, qui est une sénatrice des États-Unis, qui l'appelle pour savoir comment se passe son boulot, enfin sa demande de boulot, machin et tout. On va rencontrer à côté de ça un groupe de militaires qui est en Cisjordanie, qui est en train de réaliser une mission.
Mmh.
on retrouve à côté de ça un agent qui s'appelle Agent 355, qui essaie de tenter une mission en Jordanie pour extraire quelqu'un, mais la mission foire. On va rencontrer à côté de ça, c'est très important pour la suite de l'histoire, une doctoresse qui va accoucher, et au moment où elle arrive devant le médecin, le médecin lui demande qui est le père, elle dit bah c'est moi, parce que c'est un clone.
What
the fuck. Et on revient en fait, et on revient sur la famille de Yurik, on retrouve sa sœur qui s'appelle Hiro. C'est un peu bizarre, pourquoi pas. Qui sort avec son copain, c'est un pompier, elle est infirmière, machin, ils sont en train de faire du sexe. Voilà,
classique,
cool.
Les gens pauvres.
Classique shit. Et donc, à ce moment-là, Yurik est au téléphone avec sa copine et il y a un bruit bizarre dans la rue. Et à un moment, H, tous les humains, enfin tous les mâles, tous les porteurs du chromosome Y de toute la planète, de toute la Terre, vont mourir à un moment précis.
Donc, humains et animaux.
Humains et animaux. C'est-à-dire tout. Voilà, tout ce qui pour porteur d'un chromosome Y meurt d'un seul coup sur toute la planète.
D'accord.
Et avec toutes les conséquences que ça peut avoir avec. C'est-à-dire les avions qui sont en train de voler commencent à s'écraser, les centrales nucléaires qui vont s'arrêter, les trains, les trucs, tout, en fait, toute la planète va être paralysée d'un seul coup. C'est, ça fait un peu bizarre, dit comme ça, mais c'est une putain de claque dans la gueule. Je crois que c'est même le premier échou, voire le deuxième, la fin du deuxième échou, je crois, c'est un truc comme ça.
Bon, c'est
un peu dire, la merde. C'est assez violent d'un coup. Par la suite, donc du coup, l'échou suivant, on se retrouve 2 mois après. Donc la planète continue de vivre, entre guillemets, avec cet incident assez majeur. Et on retrouve en fait Yurik qui va tenter de traverser le pays pour aller en fait. Alors d'abord, il se rend à Washington pour voir sa mère. Donc en fait, il doit être à New York, j'ai une connerie au début. Il va à Washington pour voir sa mère, et pour qui est sénatrice, donc pour lui dire voilà, je suis en vie. Il va essayer de prendre des nouvelles de sa famille. Bon, bref, ça prend pas très bien. Et sa mère va lui dire écoute, t'es le dernier homme sur Terre. Last Man, avec ton petit singe de merde, et tu vas pas aller voir ta meuf qui est en Australie pour la demander en mariage, tu vas aller voir un docteur qui sait cloner les gens, Dr. Man, un des protagonistes qu'on a eu dans le premier show, et tu vas être accompagné de l'agent 355. Donc en fait, à partir de là, va se dérouler en fait une longue histoire, un long périple là-dessus, avec plein d'encontres de personnages super intéressants, des sociétés secrètes, des trucs comme ça. Je vais m'arrêter là pour l'histoire, parce que c'est un truc qui est à lire. La chose qu'il faut savoir sur l'auteur, c'est que lorsqu'il a commencé cette histoire-là, il a dit « Ok, je fais 10 tomes, point barre. » Il savait exactement où il allait commencer l'histoire, il savait comment ça allait se terminer, il savait exactement les protagonistes qu'il fallait à l'intérieur, il savait les rencontres qu'il allait avoir, l'action et ainsi de suite. Donc il avait tout dans la tête, il a commencé à écrire, c'était d'emblée. À côté de ce qui fait que du coup le monde qu'il crée à l'intérieur dans cette je vais pas dire que c'est post-apocalyptique, mais dans cet apocalypse qui arrive après ça, tout est ultra cohérent.
C'est une dystopie.
Voilà, une dystopie. Tout est ultra cohérent. C'est-à-dire toutes les conséquences qui vont être faites de ce point-là, donc de la mort de tous les hommes sur la Terre, tout va être ultra ultra bon, ultra pensé, tout est logique. C'est-à-dire, à un moment, Yurik va dire. Je puis il parle à un autre personnage, il dit voilà, bah, je vais aller en Australie, et l'autre lui dit bah, tu vas y aller comment? Je dis bah, je vais prendre l'avion. Il dit non, mais attends, est-ce que tu sais la proportion de pilotes femmes qu'il y avait sur la Terre? Et parmi elles, tu sais combien ont survécu à l'incident? Parce que les avions sont crashés, trucs comme ça.
C'est ça qui est ouf, c'est que ça te met un parallèle à aujourd'hui.
En fait, voilà, on se rend pas compte, on est dans une société patriarcale énorme. On en parlait en off avec Nekoto, il disait mais putain, 2 mois après, il y a pas d'électricité, il y a plus rien. Oui, parce que dans les centrales nucléaires, il y a des ouvriers, et pour faire fonctionner la centrale, il faut des ouvriers, et les ouvriers sont, je pense, à 90% des hommes. Donc,
moi ça m'a choqué, c'est ce que j'ai dit à Zef en premier, j'ai dit mais putain, en 2 mois c'est l'apocalypse, c'est la famine et tout, les gens ils se battent pour avoir à manger. Et c'est vrai qu'en 2 mois en fait tu peux pas redresser quand il y a plus de la moitié des gens qui sont morts.
Voilà, on peut, enfin je crois
que techniquement moins de la moitié, mais
oui pardon,
enfin, voilà, oui, mais il y a des femmes qui sont mortes, je crois qu'il y a 60 à 65% de femmes sur Terre pour le reste d'hommes. Voilà, même si on était à 70%, enfin aujourd'hui c'est énorme d'avoir une société qui fonctionne quasi qu'avec des ouvriers. Enfin, pour avoir bossé en usine quand j'étais jeune, il y avait que des hommes qui faisaient bosser ça.
Mais c'est
super
rien,
dur. Non, pas du tout. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont être créées. Il y a un espèce de groupe qui vont s'appeler les Amazones, qui vont essayer de poser leur loi un peu à la Mad Max. C'est un peu bizarre. Niveau dessin, c'est un bémol pour beaucoup. Alors moi, je kiffe. Je trouve que ça colle à l'ambiance, parce que le dessin va pas nous sortir complètement l'histoire en ayant un truc trop poussé ou trop bizarre ou trop machin. C'est simple, ça fait un peu old school dans l'idée, dans les couleurs, dans la texture du papier même, en tout cas dans les TPB que moi j'ai eu, dans le découpage des cases, l'action, tout ça est très très simpliste. Donc on se concentre à 100% dans l'histoire, le dessin vient juste supporter l'histoire qui est racontée. La fin de la série, elle porte un peu à débat, je vais pas le dire tout de suite. Là, il me jette des éclairs dans ses yeux.
Alors, on va pas trop en parler.
Ouais,
je parle pas du tout de la fin, de comment elle est. C'est juste que, effectivement, on peut s'attendre à un truc, on est déçu ou pas. Moi, j'étais pas déçu, je m'attendais pas forcément à ça, mais encore une fois, comme je dis, l'auteur était cohérent.
Oui, mais c'est, voilà, ça prouve que c'est bien ficelé. Voilà. Si la fin fait débat, c'est que. C'est,
oui, voilà, après, soit on l'aime, soit on l'aime pas, en fait.
Oui, voilà, mais genre, si tout le monde te dit, ouais, c'est bien, enfin, tu vois, c'est bien que ça fasse débat, ça prouve que c'est cohérent et que c'est le truc est propre, quoi.
Ouais, complètement. Pour les à côté, faut savoir qu'un projet de film a été prévu depuis longtemps, je parle de ça il y a peut-être 5 ou 6 ans. C'était Shia LaBeouf qui devait faire un remake.
Ouais.
Donc ça a été abandonné, je crois que c'est en 2013-2014. Il y a eu un tweet qui est passé d'un prod ou un truc qui a dit ok,
c'est
fini.
Ce qui était bizarre, c'est qu'en fait ça ressemble un petit peu à la prod de Ant-Man, on en avait parlé dans une autre émission. En fait, il y a eu plein de communiqués en disant ah là, ok, on a un nouveau scénariste. Ah là, le scénario est cool, là on a retrouvé un réalisateur, etc. Et en fait, quasiment du jour au lendemain, mais en tout cas on est passé de le scénario est prêt, on va filmer à telle date, à comme le disait un tweet du réalisateur qui dit bon bah finalement les droits vont revenir aux auteurs, et ça me va très bien, enfin en gros tu vois, on a l'impression qu'il s'est passé un truc, mais enfin moi j'en sais pas plus en tout cas.
Je pense qu'un film là-dessus ça aurait été une grosse merde,
une série plutôt peut-être,
mais voilà, une série en une ou deux saisons bien ficelées, bien montées en termes d'épisodes.
De toute façon, je pense qu'on est déjà dans le podcast tous tombés d'accord que la meilleure façon d'adapter un comic, c'est une série.
Pas forcément tous, mais là pour le coup c'est tellement bien découpé, il y a des actions et des twists qui sont tellement importants en fait pour le rythme de la série, que un film en fait ça aurait vraiment découpé certains passages qui sont ultra importants, ultra détaillés pour rien en fait, alors qu'une série aurait vraiment ponctué le toute l'histoire, ouais. Parfaitement en fait, je trouve.
Merci pour cette présentation, Zef. On va demander son avis au petit pote Ben.
Moi aussi, je suis un petit pote, c'est cool. Moi, rapidement, j'ai trouvé ça hyper cool. L'idée de base, je trouve que c'est... En plus, ça arrive... Je crois qu'on a dit que ça arrivait dans le premier issue, mais en fait, je crois que c'est une des premières phrases de la première page.
Oui, oui.
Où
oui,
t'as... Voilà, qui dit « Tous les hommes sont morts », et là, tu fais « What ?» Donc, l'idée est vraiment cool. Et en fait, en ayant cet état de fait, où effectivement, c'est une claque, je me suis pas rendu compte de toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Que ce soit au niveau scénaristique, mais comme tu l'as dit, au niveau juste de l'actualité, enfin, on se rend compte que c'est beaucoup plus important que ça.
De tout temps.
Voilà, de tout temps, l'homme n'est pas là. Et du coup, à côté de ça, ce qui est cool, c'est que c'est pas un scénario unique en fait. J'ai trouvé que c'était plutôt un multi-scénario, si je puis dire. Il y a ce côté tous les hommes sont morts, on sait pas pourquoi. Il y a le docteur qui fait du clonage. Il y a toutes les conséquences humaines et politiques de cet accident, on va dire. Et il y a aussi, Zef en a pas parlé pour pas spoiler, mais il y a aussi un côté artefact que je vais pas développer plus. Mais en gros, voilà, en gros, il y a vraiment, pour un événement, il y a des angles vraiment différents.
Il y a plusieurs pistes au mystère.
Voilà, et voilà, multiplié par le nombre de personnages, etc., qui vont se rencontrer, etc., c'est vraiment vraiment riche et dense, donc ça j'ai vraiment bien aimé. Le dessin par contre, effectivement, je le déteste pas, mais il m'a pas transcendé. J'aurais peut-être aimé un style un peu plus particulier, un peu plus singulier, mais c'est pas gênant parce que l'histoire est assez prenante pour pas être gêné par les dessins basiques.
D'accord.
Voilà. Donc je vais lire jusqu'à la fin.
Bonne histoire, mais dessin...
Ouais, mais c'est pas handicapant. Enfin, des fois, il y a des comics où tu dis l'histoire est cool, mais c'est vraiment chiant, c'est pas beau à lire, mais là, non, c'est pas gênant, c'est cool.
D'accord. Lane, qu'as-tu pensé? Enfin, as-tu déjà lu... Enfin, j'imagine que oui, mais toi, tu l'as peut-être lu en entier,
as-tu
déjà?
As-tu déjà lu des comics?
Bah non, je lis pas de comics, moi, pourquoi? Je suis une fille.
Ça a rien.
Je suis une fille.
Oui, je l'ai lu en entier. Je m'y suis replongée un peu avant l'émission pour me rafraîchir la mémoire, même si ça, c'est le genre de série où, en fait, une fois que tu l'as lu, tu l'oublies jamais complètement, quoi.
D'accord, ça marque.
Ouais, ça marque. Et comme Zef parlait de la fin, et effectivement, la fin, ça fait partie de ces séries où tu te prends tellement dedans et tu kiffes tellement les persos que t'as déjà ton idée de comment ça doit finir.
D'accord. Et tu t'es approprié le truc et donc tu
peux
que ça finisse.
Et c'est pour ça que la fin, elle fait débat, c'est parce que si t'avais une idée et que ça suit pas ton idée, t'es trop deg. Et tu là, t'es ah mais non, mais ça aurait pas dû finir comme ça et tout. Et t'es en train de rager devant ton comics. Et si tu penses que effectivement la fin elle est bien, du coup t'es là et t'es content parce que ça ferme la boucle quoi. Et du coup tu te dis bah voilà, j'ai passé 10, à l'époque c'était 10 tomes. Maintenant ils les ont ressortis en 5. T'as passé 10 tomes avec les persos. T'as passé des mois et des mois à attendre la suite du comics parce que comme il l'a dit, c'était 2002-2008.
Ouais, ouais,
donc ça a été super long. Ouais. Moi, ça a été un des premiers comics que j'ai lu quand j'ai commencé à bosser en comic shop. Enfin, je veux dire que j'en avais lu avant, je rassure mes clients. Mais non, parce que je sens qu'on va me la ressortir.
Attends, donc, c'est pas une honte d'avoir commencé en 2002.
Enfin, moi, quand j'ai commencé à bosser, j'étais une grosse fan de Batman et je suis moins tout ce qui était.
Plus indé.
Et surtout que le dessin de Piaguera, moi, il me plaisait pas à la base. Donc j'avais beaucoup de gens qui me disaient « Hey, lis comics et tout, franchement, ça déchire. » Et j'étais là « Je suis pas fan du dessin. » Et moi, j'ai un parti pris. Enfin, quand le graphisme me parle pas, c'est assez dur de rentrer dedans. Et puis finalement...
C'est quand même plus de 50% du comics. Hein.
C'est assez important, surtout dans ce média-là. Mais du coup... Tu lis la première issue et t'es dedans, quoi. Et t'as envie de savoir la suite. Et Yorick Brown, tu le suis et tu vas rencontrer plein de personnages que tu vas suivre. Et voilà, et c'est génial.
Et tu le kiffes surtout.
Ben, pardon, tu voulais
ajouter. Ouais, non, je voulais ajouter juste que je. Évidemment, une des. Enfin, la colonne vertébrale du comic, c'est le débat homme-femme, etc., la place dans la société. Mais je pense pas que ce soit un comics féministe ou machiste ou quoi.
Je pense que c'est
assez neutre. Et il faut juste noter, même si c'est pas ouf, que le scénariste est un scénariste et c'est une dessinatrice. Et je trouve ça bien que pour un truc qui traite du genre, il y ait une team des deux.
Zeph, ajouter quelque chose aussi.
Ouais. Non, après, je sais pas si vous voulez conclure ça, mais moi, je veux juste dire une dernière chose. En fait, j'avais quand j'ai dû relire ce truc, j'ai eu l'impression de le sortir de ma collection personnelle, en fait, le truc.
Oh là là. J'ajoute quelque chose qu'on a oublié de dire dans la présentation. Donc, Brian Kevon est également, on n'oublie pas l'accent aigu, l'auteur de Saga, une série qui, à mon avis, va durer aussi longtemps et qui déchire sa race aussi. On risque d'en parler prochainement. Mais voilà, c'est ce genre d'auteur. Si vous avez lu Saga, je sais pas si on peut vraiment comparer les deux séries, mais voilà, c'est le même... Il y a le même goût. Hein.
Ouais. Faut lire aussi Ex Machina, j'en parle au début, mais Ex Machina aussi c'est une pure série. J'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais c'est aussi une pure série qui arrive dans ce monde un peu dystopique, un peu bizarre, et qui est vraiment dans le même ton en fait, un peu bizarre.
Alors donc, White Glass Man, c'est disponible chez Vertigo Comics, donc c'est d'ici. Et c'est disponible depuis peu, en fait ils sont en train de ressortir, comme disait Line tout à l'heure, les paperbacks dans des tomes un peu plus épais, mais qui rassembleront...
Deluxe,
voilà. Mais ils n'ont pas vraiment cher, en fait.
Ils sont sortis en 5 Deluxe, et maintenant les Deluxe sortent en souple, en fait.
Voilà, c'est ça.
Ok. Ouais.
C'est ce que je commence à vendre chez moi. Parce que personne ne s'en occupait dans ma librairie. Voilà, merci pour cette présentation. J'espère que ça vous a donné envie, au moins, d'essayer. Hein. Vous avez le moyen de le faire soit numériquement, soit en papier.
En papier.
Ouais, c'est mieux.
Papiement.
Papiement, hein, arbrement. Et on va passer à la dernière partie de l'émission, c'est Hors les Bulles. De retour dans la dernière partie de cette émission, 27e, comme d'habitude sur Twitter, vous faites vos commentaires, sur Facebook, vous faites vos commentaires, sur Radio Kawa, vous faites vos commentaires. On va parler d'animation cette semaine, on va parler de la série animée qui s'appelle Avengers Assemble, et qui en français, parce que ça passe en France, s'appelle Avengers Rassemblement. Donc cette série est diffusée sur France 4 le matin dans le bloc Ludo. Vous pouvez le regarder avec les voix françaises, qui sont pas mal du tout. Hein. Franchement, j'ai regardé ça sur Plus, France Télévisions, tout ça. Il y a quand même 50 épisodes qui sont sortis aujourd'hui. Il y a 2 saisons au total. Là, ils sont en pause. Ils vont revenir en 2016 avec une saison un peu plus courte que les autres, qui s'appellera Ultron Révolution. Donc, comme d'habitude, on fait écho à ce qui se passe dans le Marvel Cinematic Universe sur le grand écran, hein, parce qu'il y a la cinématique dedans.
Hein. Mais il n'en fait pas partie.
Si vous avez écouté, merci d'écouter. Non, ça ne fait pas partie.
Il fait pas partie du MCU, mais il sert à combler entre deux films.
Voilà, ça, c'est juste eux. On s'inspire quand même lourdement de ce qui s'est passé au cinéma.
C'est dit, ils assument le fait de dire que la première saison était pour faire le pont entre Avengers et soit Avengers 2, soit la suite du MCU. Quoi.
Oh non, Marvel, c'est le jour où ils arrêtent d'assumer. Et du coup, en fait, ça a commencé donc il y a 2 ans, en 2013, juste un an après la sortie de Avengers, le premier du nom. Donc, c'est réalisé, enfin, en tout cas, produit par les gens d'un studio qui s'appelle collectivement Man of Action. qui réunit en fait des gens qui ont travaillé sur pas mal de dessins animés à succès, hein, des gros trucs comme par exemple Ben 10 et d'autres titres Marvel dont Ultimate Spider-Man qui est un gros succès de Marvel et de Disney ces 5 dernières années on va dire. Et
d'ailleurs, c'est le même univers que Spider-Man et que Hulk et les agents du SMASH.
C'est beaucoup plus simple pour eux
de
respecter les identités, les associations. C'est quand même plus sympathique que pour la personne qui va voir Fantastic Four au cinéma et qui se demande pourquoi il n'y avait pas les bagues de l'infini dedans. Voilà. est-ce que vous avez pu regarder un peu des épisodes? Je sais que c'est Ben avait choisi de
oui. Avec Lane, mais... on s'était tapé dans la main en disant ouais.
Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Enfin, déjà pourquoi vous regardez ça?
Bah déjà parce que on aime bien manger nos céréales devant la télé.
Ah mais c'est des générations.
Voilà. Même chose,
génération Y, j'ai envie de dire.
Et aussi parce que c'est cool à regarder. En fait, c'est vraiment pour les enfants.
C'est un très bon argument, ça. C'est cool à regarder.
Ouais, c'est vraiment calé pour les enfants. Ça se voit à plusieurs niveaux. Au niveau des scénars ultra simples, au niveau des blagues qui, je trouve, sont un petit peu trop. Des fois, il y a des vannes. C'est chiant. Mais bon,
en fait, ils écrivent des blagues, ils écrivent un scénario. Toi.
Voilà. Non, mais en fait, c'est le genre de blague du style. Il y a un personnage qui parle, et après il se mange un coup, il tombe. Enfin, tu vois, c'est pas drôle. Ça fait... non, mais un gamin qui va rigoler, tu vois. Mais au bout d'un moment, mais c'est pas grave. C'est un peu plaisir coupable de dire voilà, j'ai 30 balais, mais je regarde des dessins animés. Et vu que c'est un univers qu'on connaît, je trouve, et des personnages qu'on connaît, je trouve ça plutôt cool. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que c'est censé, même si ça fait pas partie du Marvel Cinematic Universe, c'est censé être les mêmes personnages, et il y a des incohérences. On a dit que c'était un pont entre Avengers et la suite du MCU, et par exemple, dans le pilote, ou dans l'épisode 2, je sais plus, du dessin animé, il y a Falcon qui débarque, alors qu'il débarque d'une façon différente dans le MCU. Du coup, c'est un peu bizarre. Pour moi, la seule différence, c'était les costumes, parce que là, les costumes dans le dessin animé sont assumés, c'est les costumes colorés du comics, donc ça, c'est plutôt rafraîchissant. On n'est plus le côté costume un peu dark qu'ils sont obligés de mettre dans les trucs un peu plus réalistes. Donc ça fait plaisir, mais par contre, je suis un peu perturbé, moi qui suis fan du MCU, mais bon, après, je suis pas forcément la cible, de ces légères incohérences. Mais ça gâche pas le plaisir, c'est cool.
Je pense que tu te trompes, c'est pas partie du MCU.
Non,
c'est l'univers dessin animé, animé de Marvel qui est cohérent en soi. Mm. Après, ils ont créé ça pour capitaliser sur
je pense qu'ils ont voulu servir du
et rajouter des personnages.
C'est dommage de pas avoir essayé de se mettre au diapason d'une certaine manière. C'est pas grave. Mais que je trouve ça plutôt cool.
Ok, Zef, qu'est-ce que tu en as pensé?
En fait, je pense qu'on va avoir tous un peu le même discours là-dessus. C'est tout pourri comme série, en fait. En fait, c'est un double ton. Ce que je veux dire, c'est que j'aime pas trop regarder ça parce que c'est des blagues un peu enfantines. L'action est pas oufissime. L'histoire tient à chaque fois dans un mouchoir de poche.
Mais ça se finit toujours avant la fin de l'épisode.
C'est pas génial, mais je regarde quand même parce que j'aime bien regarder ça le dimanche matin en prenant mon petit déj. Au même titre que je regarde.
Vraiment une génération d'interdits.
Non, mais c'est ça en fait. Au même titre que je regarde Clone Wars, donc de Star Wars, ouais. Et c'est aussi pourri en fait. C'est pas marrant, les épisodes sont tout pourris, l'histoire est pas bien et tout, mais j'aime bien regarder ça parce que je suis fan de l'univers et que j'ai envie de regarder des dessins animés en même temps que je mange mes céréales le matin en fait.
À ce point-là.
Ouais, complètement. Et pour le coup, je sais que ma fiole et mes neveux et nièces regardent ça parce qu'ils sont aussi très, très comics à cause de leur père.
Parce que c'est la cible.
C'est comics père, machin et tout. Et du coup, ça me fait plaisir de me dire que je regarde ça et que je sais qu'eux regardent. Et à la limite, quand je les vois certains dimanches, je peux en discuter avec eux.
C'est trop bien.
Et toi, Lane?
Bah écoute, moi je suis tombée dessus des matins où je me levais tôt et du coup je mangeais mes céréales.
Ah voilà.
Voilà. Oh, et du coup je. Et franchement, c'est un des seuls trucs où je fais pas ma vieille meuf en mode non mais là ils ont pas suivi le scénario et puis là ils devraient pas se passer ça parce qu'avec les films je suis très chiante. Parce qu'à chaque fois que je vois un film, je peux pas m'empêcher de me dire putain mais dans le comics ça avait un putain de scénario, ils ont pas respecté, putain ce perso c'est pas ça et tout. Et là je dis rien, je ferme ma gueule, je mange mes céréales et je sais que c'est pas top. Je sais qu'il se passe pas, voilà, il y avait un épisode, je vais faire ma fille. Genre c'est Black Widow qui roule un gros patin à Hawkeye. Tu me dis, mais pourquoi? Et en fait non, tu dis rien, tu fais ok, d'accord, tu me foutais ça, tu regardes l'épisode et puis ça se finit, genre tu sais qu'ils vont gagner, tu sais que de toute façon, quoi. Mais tu regardes quand même et puis ça va bien.
Le truc qu'il faut dire, c'est que c'est des épisodes de 22 minutes et que c'est-à-dire que l'intrigue doit tenir en 22 minutes, c'est-à-dire qu'il doit y avoir l'exposition en 5 minutes, l'épisode en 10 minutes, et dans les 5 dernières minutes, il faut la résolution du problème, en fait.
La morale et la fin.
Exactement. Moi, il y a un truc, j'ai pas parlé des points négatifs, j'ai dit que c'était cool, il y a quelques trucs qui me font chier, notamment le méchant qui part toujours. Il meurt jamais, bon évidemment c'est pour les gamins donc il va mourir.
Oui mais il s'en va.
Voilà exactement, mais c'est chiant, le mec il fait une tirade, les vengeurs ils restent devant lui comme ça et il se casse et voilà et on le reverra dans un autre épisode. Donc ça me fait chier mais peut-être que les enfants ils aiment bien. Mais à chaque fois que je fais une critique je pars du principe que c'est pas moi la cible, mais c'est pas grave. Et le deuxième truc qui est quand même un point vraiment négatif, c'est visuellement, donc le trait est pas trop dégueulasse, mais par contre ce que je trouve hyper dégueulasse c'est ce mélange 2D 3D, c'est-à-dire que dès qu'il y a un élément qui va être animé de façon enfin, qui va être très animé, c'est en 3D. Genre un vaisseau qui vole, qui fait un loubi, qui sera en 3D. Les décors qui sont archi dégueulasses. À un moment, il y a la tour des Vengeurs.
C'est une photo qui a été
vectorisée. C'est dégueulasse. J'ai envie de mourir.
Du film.
Voilà, exactement. C'est horrible. En fait, tu vois, c'est horrible. Et je pense que les gamins, ils s'en foutent. Tu vois, ils voient pas.
Ils voient rien.
C'est pas grave. Donc ça c'est dégueulasse. Non mais c'est vrai, c'est chiant. Un peu de respect. J'ai envie de mourir. Non mais en fait, l'autre truc qui me fait chier, c'est que et c'est peut-être le pire truc, c'est que t'as certains passages qui sont où le trait et le dessin est vraiment soigné, c'est-à-dire que t'as des volumes, des ombres, il y a des brillances, etc. Et genre
c'est quand même le graphiste qui parle.
Oui mais non mais en gros. T'as un bon dessin et genre deux frames après, on va dire deux dessins après, voilà, deux images après, t'as juste le perso qui est avec des traits noirs, enfin des contours noirs et juste un aplat de couleurs et des traits noirs pour faire les dessins. Et c'est horrible parce que juste avant tu l'as vu bien dessiné avec des ombres et tout.
Est-ce qu'il y a moyen que tu fasses une capture d'écran de ce truc pour qu'on
puisse voir? Oui, je vais te balancer.
Je crois que c'est le stagiaire en fait.
Ouais, c'est peut-être ça.
Non mais c'est le stagiaire qui font les raccords entre les
deux. C'est possible. Mais en gros, voilà. Donc il y a beaucoup de défauts. Après, effectivement, comme l'ont dit mes petits camarades, c'est excusable parce que c'est un peu un plaisir coupable. Et je pense que ça va très bien aux gamins. Donc voilà, ça se laisse regarder. Je pense que je les chopperai pas exprès pour les mater. Mais si je tombe dessus le matin, je les regarde.
En fait, moi j'en ai regardé 5. Et franchement, c'est le premier que je regarde avec plaisir parce que je me dis putain, c'est vrai, ça me rappelle ma jeunesse et tout. Et je pense que j'ai eu la même euphorie que vous avez quand vous mangez vos céréales, sauf que j'ai jamais mangé de céréales parce que je suis pauvre. Mais en réalité, je me suis vite. J'ai vite déchanté parce que je suis vite passé en mode gros con, enfin vieux con en tout cas. J'arrêtais pas de tout critiquer, mais pas tant au niveau scénaristique, mais juste au niveau putain, c'est ça qui vend nos gosses. J'étais vraiment en train de me dire, mais c'est affreux, c'est mauvais, c'est mal animé, c'est mal dessiné, c'est ni drôle, ni intéressant, j'étais vraiment
c'est
en
pas,
mode vu
que... C'est pas intelligent, c'est rien du tout.
Non, fait, mais je sais pas, limite, Dora, pour moi, c'est plus éducatif, quoi. Ouais, mais même plus divertissant. Et je trouvais même pas ça divertissant.
Je vais pas arrêter sur ce coup, là,
Dora. Bientôt, tu vas dire que les Teletubbies, c'était bien, quoi.
Mais oui, mais
pour le coup, c'est vrai que quand tu... Avant de faire cette série-là et avant de faire Clone Wars, je regardais Batman, la série animée.
Attends,
j'ai pas fini ma phrase.
Perché.
Je disais juste que voilà, regardez ça. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas du tout à cette qualité d'écriture, de dessin, de l'animation. Ah, donc c'est vraiment difficile. Mais voilà, en fait, c'est un truc pour les gosses. C'est pas
une excuse. Faut arrêter.
Attends, je m'en sers pas comme ça. Je dis juste, c'est un truc pour les gosses. On est clairement pas la cible quand on disait Nekoto. C'est juste que c'est cool à regarder en fait. C'est court, ça prend 20 minutes. Quand t'as fini ton petit déj, t'as arrêté. La série s'est arrêtée, tu passes à autre chose quoi. Tu t'en regardes pas trop à la suite, c'est pas possible.
Non mais juste,
l'excuse
c'est pas c'est destiné aux enfants, même si c'est un peu vrai, mais effectivement c'est plus compliqué que ça. La vraie raison, c'est que c'est hebdomadaire et que ça dure 20 putains de minutes, donc ils sont obligés entre guillemets, enfin c'est eux qui ont choisi ça, mais ils sont obligés de se dire voilà, on a un scénar qui est écrit sur un bout de nappe parce que ça faut que ça tienne 20 minutes. Et c'est fait comme disait par un stagiaire parce que il y a un coup et que ça doit être fait, c'est toutes les semaines quoi.
Je pense que c'est vraiment trop loin du monde des enfants en fait.
Je voulais juste pour finir j'ai noté ma vanne préférée.
Vas-y.
Ma vanne préférée, je sais plus quels sont les personnages, mais il y a un personnage qui dit, je vous le fais en français, cette bataille est trop longue. Et il répond comme tes cheveux. Okay. Et je crois que c'est Thor qui dit ça et quelqu'un lui répond comme tes cheveux. Genre, ouais, c'est possible. Du coup, c'est horrible.
Ok, merci pour toute cette émission. C'était la 27ème émission. On va dire merci à Ben.
Bah, de rien, enfin bon.
Merci à Zeph.
C'était un plaisir.
Merci à Lane.
Merci.
Et enfin, merci à Adrien de nous avoir accueillis.
Ouais. Il a fait des cookies.
Mais, oui, c'était très bon. Il y avait plein de post-it dedans. Ah là là. Nous, on se retrouve pour la grande rentrée de Radio Kawa, pardon, le 21 septembre, le lundi 21 septembre. Du coup, on sera à 18h. Non, à 22h, je crois. Bon, je vous donnerai le bon horaire parce que c'est le cœur de la bêtise. C'est donc une émission Radio Kawa. Vous nous téléchargez directement sur iTunes,
dans
sur
votre ordinateur.
Site. Arrête de parler quand je parle.
Dedans.
Sur la gueule. Sur le site de RadioKawa.com. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Comme d'habitude, vous réagissez sur Twitter et Facebook. On vous souhaite de passer une bonne rentrée malgré le mauvais bon temps. Parce que bon, un jour sur deux, il fait beau, l'autre il fait froid, il pleut et tout ça. On vous remercie encore et mille fois de nous écouter chaque semaine, enfin chaque deux semaines, vous êtes toujours plus nombreux, c'est très gratifiant, donc plein de bisous.
Vous êtes cool.
On dit encore merci à ZQSD parce qu'ils sont cool, hein, voilà.
Allez.
Oui, on les a vus, on a bu des verres avec eux, enfin moi en l'occurrence, pas vous.
Je voilà. Ne pas le rapport tout seul, mais ok, bonjour.
Non, il n'y a pas de rapport, mais bis,
ah,
voilà.
Non, pour le coup, ZQSD, j'ai commencé à les écouter en podcast, ils sont cool.
Voilà, un clairvoyant comme d'habitude, allez leur faire un coucou. On a quelque chose à dire, non? C'est bon? On peut venir à l'émission?
Bah oui, enfin.
Parce qu'en fait, ils sont en train de se moquer de moi parce que je tire l'émission en longueur.
Pas du tout!
C'est classe!
Allez, à très très vite! J'ai pas entendu, mais c'est pas grave! Bonne soirée, bye bye!
Salut!
Tu te rends compte qu'à chaque fois, tu me fais. Ouais, c'est long.
Déjà,
et tout.
Je suis en train de tirer l'émission.
Ça fait deux minutes!
Je suis en train de tirer l'émission! Non, pas du tout! Bah, c'est clair! C'est ça qu'on rigolait.